Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Dans ce nouvel épisode, plongeons avec Olivier Molendicoste dans le monde fascinant de l'analyse de cellules et de la fluorescence. Qu'est-ce que la cytométrie et comment ça marche? Préparez-vous à être transporté dans un univers coloré et lumineux où les cellules sont les stars du spectacle et où les chercheurs sont les maîtres de cérémonie. Bonjour Olivier.
Bonjour César.
Olivier, tu es ingénieur de recherche INSERM, responsable scientifique et technique de la plateforme de cytométrie de l'Institut Pasteur de Lille. Donc c'est une des 8 plateformes de BICEL, donc Bioimaging Center Lille. On se souvient qu'on avait déjà dans un ancien épisode interviewé David Hott, qui est responsable d'une autre plateforme. Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir comment la science progresse grâce à l'analyse des cellules. On est justement là dans ton laboratoire. On a en face de nous un cytomètre, un analyseur de cellules. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que la cytométrie ?
Alors, la cytométrie, c'est une technique qui permet d'analyser des cellules en suspension unicellulaire, c'est-à-dire qu'on les a séparées les unes des autres pour pouvoir vraiment repérer les cellules une par une et pas en tandem ou en trio. Ouais. Ou dans ce cas-là, on peut confondre un phénotype avec un autre. Et tout ça, c'est passé devant des lasers qui stimulent des couleurs. On repère ces couleurs et ça permet de déduire la carte d'identité des cellules, voire des caractéristiques fonctionnelles avec certains marqueurs fluorescents qui révèlent l'activité des cellules.
Alors, comment ça se passe au quotidien ? Est-ce que les chercheurs viennent vers toi pour comprendre comment se comportent leurs cellules dans certaines conditions, c'est ça ?
Oui, alors en fait, nous, on est une plateforme dont on donne accès à nos instruments à différentes équipes, à toute personne qui veut venir sur le plateau. On les forme à l'utilisation des machines, qui sont relativement simples d'utilisation. Ensuite, surtout, c'est de l'accompagnement dans la construction de leurs expériences. Faut très bien définir son but de façon générale en biologie, mais plus particulièrement en cytométrie pour voir ce qu'on veut regarder et pas se rendre aveugle à des choses qui pourraient être intéressantes ou pas perdre du temps à regarder des choses qui sont pas dans le but du projet.
Ce que tu me dis là, c'est qu'au fond, il faut bien cadrer l'objet de recherche pour regarder la bonne chose et pas s'éparpiller en voulant regarder toutes les cellules.
Voilà, exactement. Un truc qui est très important aussi en cytométrie, c'est la qualité des échantillons qu'on analyse, parce que si on a que des cellules mortes ou mal dissociées, ou si on les a dissociées avec des enzymes qui détruisent les petits marqueurs à la surface, on ne peut pas voir des choses belles en fait. Oui. Donc du coup, la qualité des échantillons est vraiment primordiale, autant que la construction de l'expérience de cytométrie en elle-même.
Alors, il faut bien comprendre comment ça se passe. Écoute, là, on a devant nous un analyseur de cellules, donc tu dis un cytomètre, c'est ça ?
C'est ça.
Comment ça se passe ? On introduit les cellules ?
Comment ça marche ?
Comment ça marche ? Quelle forme ça prend ? Est-ce qu'on met des cellules sur une lame ?
Non. Voilà. Non, on met des cellules dans un tube. On met le tube sur l'aiguille là, qui sort de la machine.
Ouais.
Et cette aiguille va aspirer les cellules doucement et les passer du coup devant des lasers et des détecteurs qui vont permettre de repérer les marqueurs qu'on a mis, couple marqueur-couleur en fait.
Très bien.
Et après, l'ordinateur enregistre ça et nous affiche le niveau d'expression de chaque marqueur, de chaque couleur en fait, à l'écran. Et ensuite, on sélectionne les populations positives pour tel marqueur, négatives pour tel autre, pour définir ce qu'on avait dans notre échantillon en fait.
C'est toujours quelque chose qui m'impressionne énormément, c'est qu'on est à l'échelle de l'infiniment petit.
Alors en plus, là, on ne parle que de cellules, on peut faire encore beaucoup plus petit, on peut faire des microparticules, analyser des noyaux ou des mitochondries. J'en ai fait ce matin avec des collègues qui bossent sur la genèse et l'excrétion mitochondriale.
Ouais.
On peut regarder des trucs vraiment très petits, oui.
Et donc, tu parlais il y a quelques instants des fluorochromes, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, alors un fluorochrome, c'est une molécule généralement de petite taille, mais ça peut être un peu gros aussi, qui a des propriétés physico-chimiques qui fait que cette molécule capte des photons à une longueur d'onde, et les relargue à une longueur d'onde supérieure, donc avec une énergie inférieure.
Et donc, ces fluorochromes-là sont accrochés à la cellule qu'on veut regarder en question, c'est ça ?
En fait, ils sont accrochés à un marqueur qu'on met sur la cellule. La réaction de ce qui est collé à la cellule à telle ou telle lumière va nous dire si la cellule exprime tel ou tel marqueur qui est lui-même couplé à une couleur.
Très bien, voilà. C'est super clair. En préparant cet épisode, tu m'as dit que la limite des couleurs, parce qu'au final, tu es obligé de travailler avec une variété limitée de couleurs, tu ne peux pas travailler dans 15 000 nuances de vert ?
Oui, alors en fonction de l'équipement qu'on a à disposition, on peut regarder plus ou moins de couleurs différentes. Par exemple, là, on est devant un équipement, on taira la marque parce qu'on ne fera pas de pub, classique, le plus classique des cytomètres. Nous, on n'a que 4 lasers sur celui-là, du coup, on peut repérer 16 couleurs.
D'accord.
Alors 16 couleurs, c'est vachement bien. Moi, quand j'ai commencé la cytométrie il y a un peu plus de 10 ans, on était limité à 11 couleurs. Voilà. Ensuite, sur les analyseurs classiques, maintenant, on monte facilement à 18. C'est que là, on n'a pas de laser UV, donc il manque toutes les couleurs qui sont stimulées par le laser UV.
Et on peut se dire que 16 couleurs, c'est déjà énorme pour des choses qu'on veut regarder sur une cellule.
Alors oui, on veut regarder un type cellulaire, mais quand on veut regarder plusieurs, 16, ça peut très vite être limitant en fait.
D'accord.
Mais on peut déjà caractériser globalement l'écosystème d'un organe, par exemple en termes de cellules immunitaires. Si on regarde des cellules endocrines, donc si on s'éloigne de l'immunologie, 16 couleurs, c'est beaucoup parce qu'on a très peu de marqueurs spécifiques des cellules endocrines. Donc on va vite aller regarder en intracellulaire si la cellule sécrète telle ou telle hormone, mais on ne va pas regarder 16 hormones en même temps. Voilà, mais c'est limité.
Demain, selon toi, on arrivera à combien de couleurs ? Est-ce que si on se projette dans 5, 10, 20 ans, on pourra analyser avec 200 couleurs, 500, 1000 ?
Non, il y a toujours des limites aux techniques de fluorescence en cytométrie. Il y a des limites d'overlap, de chevauchement, de spectre lumineux, que ce soit au niveau excitation et émission, ce qui fait qu'on a beau multiplier les lasers, multiplier la précision de lecture des spectres, il y a toujours des chevauchements à découpler. Il y a une limite intrinsèque qui sera peut-être de l'ordre de 40, 50. Ensuite, on n'est pas à l'abri de développer des nouvelles couleurs chimiquement, oui, qui seraient complètement aberrantes, qui auraient 2-3 pics d'émission, ce qui permet de mieux les séparer des autres. Je ne sais pas, une cinquantaine de targets, je dirais, en fluo. Et en cytométrie de masse, pour le moment, 120. En théorie.
En tout cas, on voit que tout ça avance très bien. Alors Olivier, maintenant on se dirige vers une autre machine qui sert à faire du tri cellulaire.
Tout à fait.
Ça donc c'est une étape qui vient avant, qui vient après ?
Qui vient après. En fait souvent la démarche c'est on essaie de trouver une population cellulaire d'intérêt dans notre projet.
Ouais.
Et après ce qu'on va chercher à faire c'est l'isoler du reste des cellules de cet organe ou de ce prélèvement ou de cette culture pour retravailler sur cette population purifiée. Et donc pour ça, il y a des ingénieurs et des mecs très intelligents qui ont inventé le trieur de cellules. Donc c'est un cytomètre, ouais, pareil, qui repère les couleurs. Il va faire la même chose, donc on va repérer les mêmes cellules. Le trieur va les séparer de l'échantillon. En fait, c'est assez simple, il transforme le flux en jet, très bien maîtrisé. Ce jet se transforme en goutte et on est capable de dire quand la cellule d'intérêt se retrouve dans la dernière goutte avant qu'elle se sépare du jet.
Donc on est capable d'avoir une goutte avec pile poil la cellule.
Ouais.
C'est impressionnant.
C'est fou, hein. Et ça va très vite en plus, ça peut fonctionner 10 ou 15 000 événements par seconde. Donc on peut analyser 15 000 cellules par seconde et sortir les 500 qui nous intéressent dans cette seconde-là en fait.
Le fait de faire du tri cellulaire, de l'analyse cellulaire, quelle portée ça a sur la science ?
Alors ça a un intérêt majeur qu'il faut pondérer. Fut un temps, dès qu'il y a une énorme avancée technologique en cytométrie, faire une manip juste de cytométrie permettait de faire des super publis. Quand la cytométrie spectrale ou que la cytométrie de masse sont apparues, une manip, c'était une publi. Parce que d'un seul coup, on analysait toutes les cellules immunitaires d'un tissu. C'était génial. Maintenant, la cytométrie, même historiquement, s'insère dans des projets pour répondre à des questions. On ne fait pas un projet de cytométrie, on fait un projet de recherche. Et la cytométrie peut avoir un apport majeur, voire central dans beaucoup de projets, mais ce n'est pas en soi une finalité.
Toi, Olivier, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Et puis, comment tu t'es retrouvé, au fond, à travailler en cytométrie ?
Alors on va le faire dans l'autre sens, je vais répondre à l'inverse. J'ai toujours été attiré moi par la nutrition, l'effet de la nutrition sur l'organisme et les phénomènes de société comme l'obésité, le diabète. Ce qui m'a amené du coup à faire un doctorat, puis un premier postdoc vraiment plus centré sur la physiopathologie du diabète ou de l'obésité. Et au final, les connaissances avançant, 2006, première publi, il me semble, première grosse publi, sur le fait que l'insulinorésistance, donc qui mène au diabète de type 2, et principalement la conséquence de phénomènes inflammatoires, donc de phénomènes immunitaires. Donc je me suis de plus en plus penché sur l'influence du système immunitaire sur les cellules métaboliques.
D'accord.
Et pour étudier ça, le mieux, c'est la cytométrie.
D'accord.
Et donc je me suis mis à la cytométrie, et après, j'ai aimé ça. Il y a eu un poste qui s'est ouvert dans mon ancien labo pour monter une plateforme de cytométrie. Et donc j'ai postulé, j'ai été recruté, et je me suis spécialisé dans ça. Ce qui me plaît le plus ensuite dans mon métier, c'est qu'il y a beaucoup de questions posées par beaucoup de projets de recherche qui trouvent une partie de leur réponse en passant par la cytométrie. Et donc, le fait d'être un expert, c'est un peu overkill comme terme, mais en cytométrie, on peut aider l'avancée de la science avec un truc qui, moi, me paraît souvent assez simple, qui, à des gens qui ne connaissent pas, peut paraître très compliqué, comme si moi, je me mettais à la microscopie électronique, j'aurais l'impression que c'est un monde inaccessible. Mmh. Alors que quand on a eu les formations, l'encadrement, on comprend avec le temps. Et l'expérience, à force de rater des trucs, on réussit à les faire. C'est ce que je dis quand je forme des utilisateurs, c'est... Vous en faites pas, vous ferez toutes les conneries possibles et imaginables sur un cytomètre, vous les referez pas une deuxième fois.
C'est sûr.
Et une fois qu'on les a toutes faites, on sait comment ils fonctionnent.
Olivier, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin ?
Ben, je dirais, alors c'est vraiment un conseil de vieux loup, je ne suis pas encore trop vieux et je ne suis pas encore trop loup. De la biologie, c'est comme ils disent en anglais, garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si on arrive, quelle que soit la technique, avec un mauvais prélèvement, un mauvais marquage, on va ressortir que des mauvais résultats. Si on met que des cellules mortes, abîmées, explosées dans le cytomètre, on ne retirera rien de ce qu'on a fait.
C'est quelque chose qui revient très souvent dans ce podcast, au fond, c'est le fait de l'importance au début de bien clarifier l'angle de recherche avant de commencer à faire les manips qui permet d'aller plus vite aussi.
Et puis je ferai un deuxième mot de la fin, c'est qu'il n'y a pas de questions bêtes. Quand on ne connaît pas un truc, il faut poser ces questions, même si elles ont l'air bêtes, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Se poser des questions, c'est la base de l'intelligence. Donc quand on ne comprend pas un truc, il faut demander à ce qu'on nous explique. Ça évite une montagne d'erreurs, de perte de temps, d'argent, de recherche, voilà, de tout.
Super, merci Olivier.
Merci César.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille ? N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.